Forum Opéra, Aurore Tillac, La Reine de Cœur.
Mais formidable. Bonjour Juliette.
Bonjour Aurore.
Alors, c'est l'heure du thé, donc nous buvons de la bière.
Oui.
Je pense que c'est pas mal. C'est un podcast un peu inattendu, c'est une sorte de carte blanche. On va papoter de tous les sujets possibles qui nous passeront par la tête. On va un petit peu parler de musique et puis d'autres choses, j'espère. Voilà, donc on espère que les auditeurs de Forum Opéra seront contents, en tout cas, de te découvrir un petit peu plus. Et puis surtout, il y aura un instant promo un petit peu inédit qui n'aura lieu que sur ce média. Et je suis très heureuse qu'on puisse en parler un tout petit peu, car tu es la marraine d'un tout nouveau festival qui vient de voir le jour et qui aura lieu en Bretagne. Et ce festival s'appelle Trampoline et Saumon. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ce festival ? Parce que j'ai cru comprendre que tu allais faire une grande performance.
Alors, c'est un festival qui est très particulier dans la mesure où chaque participant devra se plier à une discipline particulière, donc qui est le trampoline, mais tout en dégustant du saumon. C'est-à-dire qu'il n'est pas question seulement de sauter sur le trampoline, mais bien de profiter de l'exercice pour déguster du saumon. Alors la seule liberté qui est laissée aux participants, c'est le saumon de leur choix. Du saumon fumé, du saumon cru. Pour ma part, ça sera du saumon cru, parce que je suis une grande adepte du carpaccio de saumon, par exemple, qu'on peut déguster en Italie, par exemple, ou bien aussi, évidemment, de la façon japonaise de manger le poisson, c'est-à-dire cru avec du riz vinaigré. Voilà, donc c'est ça, c'est un tout nouveau festival. Évidemment, après, il y a de la chanson, mais on doit quand même avoir mangé le saumon avant.
Bien sûr. Ouais.
Évidemment, on ne chante pas la bouche pleine.
Plus ça le trampoline, et c'est vrai que...
Ça va de soi.
Tout à fait.
Voilà.
Ben, merci vraiment pour cet instant de promotion un peu unique, qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs. Et je pense que la France saluera ce geste que tu fais.
Oui, voilà, puisque bien entendu, c'est au bénéfice d'une œuvre. Ça va de soi. Que tout le monde connaît. C'est la sauvegarde du saumon sauvage, qui malheureusement est en voie de disparition, y compris dans les pays comme l'Alaska, etc., où il y en avait encore pas mal jusqu'à présent, mais malheureusement, dû à une surconsommation, voilà.
On salue d'ailleurs aussi toute l'amicale des amis du trampoline, de Plougastel d'Aoulas, qui nous écoute,
bien entendu. Voilà, bah, ça commence bien.
Ça commence très bien, je pense que cette heure du thé commence très bien.
Parfait. Il va y avoir du courrier pour demander quand,
voilà,
des dates.
Vraiment, voilà, des dates, etc. Puis vraiment, quand est-ce qu'on voit cette magnifique performance.
Donc, ça sera filmé et rediffusé sur les réseaux sociaux, bien entendu.
Bien entendu, évidemment. Et je crois sur Culture Box, à l'heure des JO, des JO de Paris, bien sûr.
Voilà.
Ma Juju, ma Juliette, que j'aime. Parce que, en fait, l'idée, comme c'est ma première fois avec toi, en vrai.
Oui.
Tu imagines bien ma fébrilité.
Oui, bien entendu.
Donc, mais ça fait toujours ça la première fois, il paraît, mais moi je suis un peu vierge de tous ces enseignements.
Ça devient excitant, en tout cas.
Ça, oui, comme jamais. De quoi aurais-tu envie de discuter ? Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de ta musique ? Est-ce que tu veux qu'on parle de tes chansons ?
Bien sûr. C'est un peu pour ça que je suis là.
Ah, je pensais que c'était pour mes beaux yeux, mais bon.
Mais aussi, je suis rassurée.
Alors, de quelle chanson voudrais-tu parler, par exemple ?
A priori, j'aurais envie de parler des dernières que je suis en train d'écrire, en fait. Parce que c'est là-dedans que je suis. C'est rigolo, parce qu'avec cette période de confinement, il y a eu deux écoles chez les créateurs. Il y a ceux qui ont profité de tout ce long temps inutilisé pour s'adonner à la création, et les autres qui ont dit que c'est une très mauvaise période pour l'inspiration, en fait, tout simplement, parce qu'on a été dans une espèce de gang comme ça, très avec beaucoup de pression et beaucoup de lourdeur. D'abord, premier confinement, on savait pas trop où on en était, on savait pas ce qui allait se passer, on était un peu inquiet, on savait pas si ça allait durer, etc. Ensuite, on a eu une semi-liberté, et puis après, ça a recommencé. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une mauvaise période pour l'inspiration, parce que on avait envie de parler, on a toujours envie de parler de ce dont on se nourrit. Et là, la nourriture était un petit peu limitée, la nourriture intellectuelle, bien sûr.
Tu m'étonnes.
Le fait de ne pas pouvoir voir des gens, de ne pas pouvoir faire des concerts, de ne pas pouvoir aller voir des concerts, aller au cinéma, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc, moi, j'ai passé quasiment un an et demi à rien foutre. Et c'était très sympa. Mais quelques mois avant la fin de cette période, là, ces derniers mois, depuis janvier à peu près, je me suis remise à écrire en fait en me disant que il fallait quand même aussi imaginer qu'on pouvait trouver l'inspiration dans rien. Et ça a été mon challenge, c'est-à-dire que je me suis dit je vais écrire des chansons sur rien. C'est pas sur rien, bien sûr, mais on cherche toujours des idées terribles. On se dit, ouais, je vais écrire une chanson qui va parler de je sais pas quoi. Et je me suis dit, non, je vais regarder autour de moi, puis je vais faire des chansons sur ce qui m'entoure. J'ai écrit une chanson sur les escaliers. J'ai écrit une chanson sur une deux chevaux, une voiture, la deux chevaux. Que c'est un vieil amour aussi, la deux chevaux, pour moi. J'ai écrit une chanson sur les poivrons, parce que je déteste les poivrons.
Tu détestes les poivrons ?
Je déteste les poivrons, c'est très mystérieux. J'aime bien l'odeur du poivron, en réalité, mais je déteste les poivrons, et c'est surtout eux qui me détestent, d'ailleurs. Et j'ai écrit aussi une chanson sur... que je ne dise pas de bêtises, j'ai écrit une chanson sur une perruque. Une chanson... Ah oui, c'est marrant, parce que quand je dis ça, ça fait toujours rire. Évidemment, c'est une chanson sur le cancer. Quand même, non.
Ah d'accord, parce que quand voilà. Tu as une chevelure d'or, hein, on peut le dire aussi.
Donc voilà, c'était l'idée d'aller prendre un objet comme ça, un petit peu des choses hétéroclites, et puis très, très banales, très, très quotidiennes, et puis d'en faire des chansons. Voilà, donc j'ai fait ça et je suis assez contente. Donc ça fait que là, pour l'instant, je dois être à peu près une moitié d'album qui est faite. Donc je vais continuer cet été. Je fais partie des gens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais moi, quand on a annoncé la fin du confinement et le retour à la vie normale, j'étais super malheureuse. Parce que je me disais, mince, parce que oh zut, j'étais bien chez moi.
Eh ben oui, c'est vous.
Mais non, sans être victime tout de même du syndrome de la cabane, je suis très contente d'être sortie et d'avoir pu faire quelques concerts. Je suis à fond, quoi.
Alors, je vais te poser une question bête, mais alors, comment tu fais pour écrire une chanson ? Tu commences par quoi ?
Alors, c'est une excellente question, parce qu'il n'y a pas de réponse dans mon cas. Dans la mesure où comme j'écris texte et musique, et je peux tout à fait faire l'un et l'autre. Commencer par le texte et ou la musique, voire même faire avancer les deux ensemble. J'ai fait dernièrement une chanson qui est assez longue, où j'ai avancé au fur et à mesure par couplet, en fait. C'est-à-dire que j'avais une idée, je me suis dit, voilà, je vais écrire ça, et c'est d'ailleurs très rigolo parce que l'idée a évolué au fur et à mesure. Où je commence par un début de thème musical qui me plaît bien, sur lequel, au lieu de mettre la la la, je vais commencer à mettre un texte, je sais à peu près de quoi je veux parler. Et puis, arrivé à la fin du couplet, je me dis, bon, voyons maintenant, si on ne veut pas que ça ronronne, dans quelle tonalité je vais, par exemple ? Pour le deuxième couplet, je vais changer de tonalité. Alors, je change de tonalité, du coup, ça change le propos, en réalité. Évidemment. Parce que d'un seul coup, ça y a une cassure. Qu'est-ce qui se passe dans ce que je raconte, puisque je viens de casser la musique. Donc dans le texte aussi, il faut casser aussi quelque chose pour justifier qu'on a changé de tonalité. Et ainsi de suite. Puis après, on finit le deuxième en se disant, bon voilà, maintenant qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reviens au premier tel qu'il était ? Ou est-ce que je reviens au premier par d'autres modulations ? Alors, donc, on essaye des choses. L'avantage de l'informatique, c'est qu'effectivement, de la musique assistée par ordinateur, c'est qu'effectivement, je m'enregistre immédiatement, je chante, même si ce n'est pas le texte définitif, je peux entendre le résultat dans la longueur et puis me dire, effectivement, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux faire ça, ça sera plus joli. Je peux essayer, recommencer, détruire, mettre les trucs dans une espèce de réservoir, je m'en servirai plus tard, enfin, etc. Donc ça c'est plutôt comme ça que je travaille, en fait, en réalité. C'est-à-dire, vraiment, je fais... Même si j'ai une... Après, il y a un moment, il faut que je me mette sur un texte et puis que je fasse que ça. Après, ça va dépendre aussi du texte lui-même. Là, je parlais de la deux chevaux tout à l'heure. C'est un texte qui m'a demandé beaucoup de travail parce que je me suis donné une contrainte. J'adore me donner des contraintes, mais je suis un peu tapée parce que je me suis donné une des contraintes ultimes de la littérature... De la littérature, c'est le pantoum.
Boring.
Alors, ça fait un peu... Oui, ça fait
boring
un peu...
alert.
Non, non, mais c'est ça.
Oh, mon chaton, pardon, non, non.
Non, non, alors, non, c'est... mais c'est alors, un peu ça.
Le qu'est-ce que c'est le pantoum ?
Qu'est-ce que c'est le pantoum ? C'est super intéressant parce que le pantoum, c'est un...
Non, pardon, excuse-moi.
vous êtes bien sur France Culture. C'est une forme poétique qui a été importée de la poésie malaise. Au XIXe siècle, le premier à en parler, c'est Victor Hugo, même s'il n'en écrit pas. Et le grand spécialiste du pantoum en français, c'est Théodore de Banville, qui en a écrit un certain nombre.
Qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui, très chaleureusement.
Qu'on salue chaleureusement, bien sûr, où qu'il se trouve. Verlaine en a écrit un aussi. Alors en résumé, c'est un poème qui doit impérativement. Ce sont des quatrains, hein, une succession de quatrains.
Et non pas de quatre L, pardon. Et parce non, que comme c'est la deux chevaux.
Là, c'est la deux chevaux, donc c'est pas bien. Non, mais si, c'est très bien, très bienvenu.
C'est un peu nul, mais.
Si, moi j'adore. Et donc, ce n'est pas des quatre L, mais bien des deux chevaux. Et en réalité, donc, il faut que ça cause un petit peu de nature, d'admiration de la nature, tout en évoquant également des tourments intérieurs, bien sûr. Une alternance obligatoire de rimes féminines et masculines. Et également, et c'est ça la grosse contrainte, c'est que le deuxième et quatrième vers de chaque quatrain deviennent le premier et le troisième du quatrain suivant.
Oh là là.
Ce qui est une grosse merde.
Et à ce moment-là, tu te mets vraiment debout sur une table de clous.
Par contre, voilà, il faut l'écrire sur un seul pied, voilà, sur une seule jambe, debout. Et si possible, effectivement, en se faisant rôtir les arpions avec
bien sûr,
un briquet,
base. Ou
un truc comme ça, bien sûr, la base. Quoi. Non, non, c'est super intéressant. La contrainte, c'est formidable parce que, de toute façon, la contrainte, c'est formidable dans l'écriture et puis dans la musique aussi. La musique n'est qu'une succession de contraintes.
Mais tu voudrais dire que la chanson française, c'est du travail, hein ? Pour tous les gens qui nous écoutent, qui pensent que c'est facile.
Il y en a qui... Oui, on n'est pas obligé de travailler. On n'est jamais obligé de travailler. Oui. C'est une règle absolue. On peut très bien laisser aller sa plume et puis se dire ça ira bien comme ça. Mais moi j'adore ça en fait parce que ça m'amuse énormément. C'est très ludique en fait tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement ça prend la tête hein, d'écrire un truc comme ça avec des contraintes pareilles. Mais c'est hyper ludique quoi. Quand ça marche, qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce
voilà,
que c'est.
Hâte surtout d'écouter
c'est
le résultat.
C'est gratifiant ouais. Quoi. C'est gratifiant à mort. Oui, et alors donc, la crainte que j'avais une fois que le texte a été, parce que pour le coup, là, j'ai écrit le texte un peu avant la musique quand même, et la crainte que j'avais, c'est que ça soit d'une lourdeur effrayante, parce que quand même, il y a deux vers qui reviennent tout le temps, enfin, il y a deux vers, le deuxième et le quatrième, qui deviennent le premier et le troisième, c'est un peu, en dehors du fait que niveau syntaxe, il faut que ça fonctionne, sinon ça ne veut plus rien dire, enfin, etc. Et j'avais la crainte que ça soit très lourd. Et en même temps, l'action n'avance pas vite, forcément, puisqu'il y a toujours deux vers qui sont répétés. Mais en même temps, c'est l'allure des deux chevaux, c'est parfait. Donc c'est aussi pour ça que le choix de la balade en deux chevaux est allé avec, quoi. Et en fait, à l'audition, si je ne le dis pas, ça ne s'entend pas, en réalité. On sent bien qu'il y a des trucs qui reviennent, mais c'est pas... J'avais peur que ça soit lourdingue, une fois mis en musique et tout. Et en fait, pas du tout. Mais c'est super... ça passe tout seul, quoi.
Et est-ce que la mise en musique, elle a été plus simple, du coup, puisque tu maîtrisais déjà cet aspect complexe de l'écriture ?
Alors, dans un premier temps, je me suis dit, je vais faire pareil avec la musique. Je vais faire en sorte que le deuxième et le quatrième deviennent le premier. Et puis j'ai dit, arrête maintenant.
De la violence,
Les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Ça suffit. Et donc, non, j'ai découpé en chaque quatrain est basé sur une mélodie qui se répète. Je crois qu'il y a quatre petites mélodies différentes enfin, qui forment un tout de couplet et puis qui se répètent trois fois. Et puis, ça va bien comme ça, quoi. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il y a un moment, hein, c'est pas non plus... voilà. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais j'ai fait une musique très, très légère, un peu à la, je dirais un peu à la Charles Trenet, on va dire. Un truc un petit peu Douce France, quoi.
J'adore.
Elle est très charmante, cette chanson, vraiment.
Et alors, tu as déjà prévu d'enregistrer à un moment donné ou
Je suis un petit peu, évidemment, soumise à ma production de discographique, donc à Polydor. Il va accepter mon projet. Ils ont déjà entendu les maquettes. Hein. Mais après, c'est toute une question d'organisation, de jours. J'espère bien pouvoir le faire l'année prochaine.
Ce qui est bien plaisant, surtout dans tes chansons aussi, c'est que tu utilises beaucoup la musique classique. C'est le petit lien. Tu me vois arriver avec mes gros sabots en bois massif aussi pour les gens qui nous écoutent et qui aiment énormément la musique classique. Bon, tu as une formation classique, on a peut-être la flemme d'y revenir 50 ans à chaque fois, mais en tout cas, qu'est-ce qui te titille dans cette musique classique ?
Alors, c'est très marrant parce que c'est la musique que j'ai découverte moi-même, en fait. Mon père était musicien et il jouait de la musique classique, évidemment. Il était clarinettiste, saxophoniste, flûtiste. Au début de ma jeune vie, mon père était, nous étions encore à Paris, et mon père faisait le métier, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était musicien pour plein de choses, pour des disques, pour des émissions de télé. À l'époque, il y avait beaucoup d'orchestres partout. Et puis, dans le milieu, on va dire dans le milieu des années 70, ce métier s'est un peu dégradé. Il y avait de moins en moins d'orchestres dans les émissions de télé, dans les émissions de radio, etc. Et mon père est rentré à l'Orchestre du Capitole, à Toulouse. Donc, en tant que clarinettiste et clarinettiste basse. Mais là j'avais 13-14 ans, donc j'étais déjà bien informée au niveau musical. Mais dans ma jeunesse, mon papa, il écoutait beaucoup de musique, des musiques du monde, et notamment la musique latine. J'ai toujours dit que la première voix enregistrée que j'ai entendue, c'est celle de Carlos Gardel, d'où mon amour du tango par ailleurs. Et il écoutait de la musique brésilienne, il écoutait du jazz, etc. C'était sa musique à lui, ce qu'on écoutait à la maison. Et quand moi j'ai commencé à faire du piano, j'avais 6 ans ou 7 ans, j'ai découvert la musique classique, d'abord la musique de piano évidemment, et ça c'est pas venu par mon père, c'est-à-dire que c'est pas mon père qui m'a fait écouter des choses, c'est parce que j'ai fait du piano que j'ai commencé à découvrir ça, donc j'ai commencé à découvrir Mozart, Chopin, enfin tous les trucs qu'on découvre quand on est pianiste, et puis je me suis bien prise de passion pour ça, parce qu'il y avait quelque chose qui me faisait plaisir, qui m'était familier, parce que je le travaillais, donc quand on travaille un instrument, on démonte un peu la musique, on voit un peu comment ça marche. J'avais une grande attirance, alors c'était très mystérieux, mais j'avais une grande attirance pour Jean-Sébastien Bach, tout en trouvant ça très dur à jouer, en réalité, même des choses relativement simples.
Petit clin d'œil qu'on entend d'ailleurs dans Éternel Féminin, qui est une de mes chansons favorites d'ailleurs.
Voilà, alors c'est rigolo parce que j'ai des idées fixes en plus musicalement, c'est-à-dire que dans l'Éternel Féminin, on entend le deuxième prélude des préludes des fugues, en ut mineur, qui est assez marteau comme truc, que j'avais travaillé à l'époque. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que dans une chanson qui s'appelle le Congrès des chérubins, on entend le thème de la fugue. On entend le thème de la fugue.
On entend surtout une somptueuse partie de flûte à un moment donné que tu as gardée exprès. Et moi, qui me passionne, quoi, vraiment.
Oui, c'est parce que j'ai une passion pour la flûte. Et ça vient de mon père, parce que mon père donc était clarinettiste et saxophoniste, mais il jouait de la flûte aussi, il faisait des séances. Et donc, de temps en temps, il se retrouvait à travailler la flûte. Et notamment, à une époque, il a travaillé le piccolo. Et je pense que là, ma mère et moi, on avait envie de le tuer. Ça aurait été un cas de drame familial, hein, qui peut arriver. Se renseigner dans un drame familial, savoir si la personne jouait du piccolo, parce que ça peut être une bonne raison.
Ah oui, le piccolo.
Oh, le piccolo, c'est terrifiant.
La clarinette mi bémol aussi.
Du coup, évidemment, la clarinette mi bémol. Ça, mon père, il l'a jamais fait. Tiens, la petite clarinette. Je ne sais même pas s'il en avait eu une.
C'est pour ça, je pense qu'il est resté aussi longtemps au Capitole, sinon.
Non, mais il y a des instruments comme ça. Mais c'est vrai, c'est terrifiant. Ouais. Et le piccolo, c'est terrifiant. Mais je pense même pour le type qui joue le piccolo, quoi.
Mais oui, c'est compliqué. Et pourtant, ça demande une telle prouesse technique. Donc, il s'enquille vraiment des années de travail pour un truc.
Oui, parce qu'en plus, c'est toujours les types qui écrivent une partie de piccolo. En général, ils ne foutent pas trois notes.
Non,
hyper véloce.
Tiens, si je mettais 16 quadruples croches, comme ça, un espace d'un demi-temps.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est très pénible. Mais ça, c'est très utile, un piccolo, dans une orchestration, par ailleurs. Donc c'est vraiment l'aigu de l'orchestre.
Oui, complètement.
Voilà, la musique classique, c'était mon trésor à moi. Ma gourmandise, quoi, j'aimais beaucoup ça. Donc, très naturellement, par Mozart, je crois, la première fois, je suis arrivée aussi à l'opéra. Et puis, il y a eu cette grande révélation, puisque mon père est arrivé à l'Orchestre du Capitole, et j'ai eu des billets de faveur, forcément. Un musicien à l'orchestre, on a le droit d'aller voir des opéras, on a le droit d'aller voir des concerts, etc. Donc j'en ai vu beaucoup, et des opéras notamment, hélas. Ça a été le choc. Et je pense qu'en réalité, je fais la chanson que je fais parce que j'aime l'opéra. C'est-à-dire, j'aime bien que ça raconte une histoire, j'aime bien qu'il y ait la musique comme une musique de film, un commentaire musical, j'aime bien qu'il y ait du spectacle, j'aime bien qu'il y ait...
Puis des personnages, il y a plein de personnages.
Et donc, je pense qu'il y a quelque chose, tout à fait modestement, dû à ce que j'aime l'opéra, dans le fait que je fais la chanson comme je la fais. C'est-à-dire que je préfère l'opéra à la chanson française, si on va par là, par exemple. Je me passerais volontiers d'écouter de la chanson française, mais difficilement d'écouter de l'opéra. Voilà.
Et ton opéra préféré, c'est lequel ?
Allez, aujourd'hui, je vais dire La Traviata. J'adore parce que c'est un opéra qui est finalement assez court. parce que j'en aime beaucoup le sujet. J'aime beaucoup le personnage de Violetta Valérie, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose dans la musique qui est immédiat. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est assez compliqué. Mais là, c'est quand même un enquillage de tubes, on va dire. Ouais. Il y en a les uns derrière les autres. Mais je dis ça maintenant, mais demain matin, je vais dire Turandot. Après-demain matin, je vais dire Salomé de Richard Strauss, que j'ai vu. Je pense que c'est l'opéra que j'ai le plus vu, d'ailleurs. Que j'adore. Les opéras de Richard Strauss, c'est à tomber par terre. Quoi. C'est monstrueux. Quoi. C'est sublissime. Alors voilà, ça va aller. Et puis après-demain, je vais dire La Flûte Enchantée, parce que La Flûte Enchantantée, quand même, il faut bien dire, c'est un pur, c'est du bonheur à l'état pur. Puis encore une fois, je vais découvrir un truc, je vais dire, oh, c'est beau ça. Bon, c'est vrai, il y a Tosca aussi. Non, mais il y en a trop.
Puccini, non, mais bien sûr, Puccini, évidemment. Puccini, c'est le dame,
alors, par vraiment... contre, j'avoue, mon handicap et mon incompétence, Wagner, j'ai jamais pu. Voilà. J'avoue. Il y a des pages de Wagner que je trouve absolument sublissimes, mais j'ai du mal avec Wagner. Voilà. Je l'avoue.
C'est un petit peu long, quand même, des fois.
Je crois. J'ai été traumatisée quand justement, quand je voyais beaucoup d'opéras, parce que le premier Wagner que j'ai vu, c'était Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg à la Hallograin à Toulouse, sous la direction de Plasson, donc une grosse production, etc. Mais le problème de la Hallograin, c'est que les places qu'on pouvait avoir étaient assez inconfortables. Et surtout, moi, j'ai entendu un pilier de béton de 2 mètres sur 3 chanter pendant toute la soirée. Ouais. Donc, je n'ai rien vu, quoi, en fait. Mais voilà, j'ai un petit peu plus de mal avec Wagner. Mais encore une fois, voilà, je ne suis pas ni fermé, ni sectaire, ni quoi, ni qu'est-ce. Ça ne me donne pas forcément envie d'envahir la Pologne, etc. Comme
non, mais c'est peut-être les sujets aussi qui te plaisent je davantage pense... aussi dans les opéras, plus que la
musique
elle-même.
Mais sauf que c'est bizarre, parce que normalement, je devrais être fan du Nibelungen, parce que j'adore Le Seigneur des Anneaux et que je suis une fan de la trilogie Tolkien, qui est quand même largement inspirée de la même légende que le Nibelungen. Donc, je devrais adorer ça. Je ne suis pas sûre que ce soit juste les sujets. Alors aussi, peut-être, c'est une espèce de préjugé à la con, parce que, l'histoire veut que Wagner soit connoté un petit peu. On est tous victimes de préjugés, finalement, à un moment ou à un autre, et nos intérêts, des fois, se limitent un peu à cause de ça, ce qui est sans doute très dommage, je le regrette, mais voilà, c'est comme ça.
Mais il y a encore du temps pour écouter. En plus,
il y a encore du temps. Non, mais en plus, il y a des trucs que j'ai entendus, des pages comme ça qu'on entend. On se dit, qu'est-ce que c'est? Et puis après, on prend le programme et on s'aperçoit que c'est Wagner. On se dit, c'est quand même pas mal ce qu'il faisait, ce mec. Voilà, mais je suis moins sensible. Voilà, peut-être c'est la langue. Je peux même pas dire que c'est l'allemand, parce que la Flûte Enchantée, c'est en allemand et c'est magnifique. Donc non, je
peux même pas dire ça. Zuhilf, comme disait notre cher ami Tamino.
Exactement.
Un projet qui te tiendrait très à cœur, justement, là, maintenant, comme ça. Une envie un peu folle. Puisque là, tu fais du tango. Ça, c'était quelque chose que tu voulais faire depuis un super longtemps.
Oui, puis alors en plus, c'est rigolo. On est en train de tourner avec ce spectacle. En fait, c'est un orchestre constitué qui s'appelle Silbando. Ils sont 10 musiciens. Donc c'est un orchestre de tango un petit peu à l'ancienne, un peu comme ceux d'Osvaldo Pugliese, etc. C'est 3 bandoneons, 4 cordes, piano, contrebasse et un chanteur.
Il te kiffe grave, le chanteur.
Ah, mais moi, je le kiffe grave, on se kiffe grave, quoi, parce que qu'est-ce qu'on se plaît bien. Et en fait, c'est un spectacle qui est quand même basé sur mes chansons. Parce que dans l'écriture de mes chansons, il y a la présence du tango qui m'est très familière depuis longtemps. Et donc, elle était toujours un peu là. Donc, ça a été aussi une espèce d'évidence, quoi, voilà, de réarranger mes chansons pour cet orchestre.
Et alors, après ça, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais encore faire? Je ne sais pas, bon, excepté le trampoline et le saumon dont nous avons parlé au tout
début.
Bon,
alors,
c'est une passion cachée que évidemment. Personne ne soupçonnait. Mais,
après, moi, je me laisse assez porter par les trucs. C'est vrai que j'aimerais bien refaire soit un disque, des concerts avec un orchestre symphonique, parce que c'est quand même assez extraordinaire, le monde et le son d'un orchestre. Mais j'ai pas de projet en ce sens-là. Est-ce que je ferai peut-être un jour je finirai par décider d'écrire une espèce de sorte de comédie musicale, parce qu'un opéra serait un bien trop grand mot pour désigner ce que je serais capable d'écrire, mais une comédie musicale plutôt, avec des chansons et une situation. J'aimerais bien faire ça un jour.
Mais tu avais déjà écrit pour le Créa d'Aulnay, je crois.
Alors, le Créa d'Aulnay, où j'ai fait la musique. Ouais. Et donc, c'est une comédie musicale, effectivement, avec une histoire, une dramaturgie et des chansons. Donc, effectivement, des morceaux de chansons qui viennent. Et c'est très particulier, parce que le Créa d'Aulnay, donc, c'est des chœurs d'enfants, avec des solistes. Mais c'est très particulier, le travail du Créa. Parce que c'est un travail d'abord super collectif. Chaque môme, il n'y a pas de petite star, quoi. Il n'y a pas de petit. Chaque môme, elle connaît tous les rôles. Enfin, c'est assez marrant. Ils sont très. Et puis, donc, il faut écrire pour des ensembles d'enfants. Et donc, avec plusieurs niveaux en plus dans les chœurs, c'est-à-dire des qui sont tout à fait capables de tenir leur voix, même s'il y a des gens qui chantent à côté quelque chose de très différent. Et puis des choses plus simples, parce que pour ceux qui débutent, une voix ça va, deux voix ça commence à se compliquer, et puis alors s'il y en a trois c'est la cata. Donc c'est assez intéressant, parce que il faut être pédagogique aussi là-dedans, c'est un boulot particulier. Donc ça avait été une belle expérience que je renouvellerai d'ailleurs avec grand plaisir.
Bah oui, parce que Didier Grosjean, c'est la base quand même, on adore Didier Grosjean.
Mais Didier Grosjean, voilà, ouais. Donc il faut bien dire, c'est moi j'ai rencontré Didier et j'ai vraiment pris une grosse claque sur le côté pédagogique de cet homme. C'est hallucinant, quoi.
C'est mon Dieu vivant.
Ah oui, c'est vrai, mais je ne m'étonne pas. Mais il ferait chanter des chaises, lui. Enfin, c'est hallucinant, quoi, vraiment. Et avec une discipline. En plus, ça, c'est formidable. C'est la discipline qui est incorporé. C'est-à-dire qu'il a jamais il hausse le ton, jamais il y a un mot plus haut que l'autre, etc. Les enfants sont hyper eux-mêmes se disciplinent. Enfin, je sais pas comment dire. C'est incroyable. Puis cette façon de faire travailler aussi les grands avec les petits. Chaque grand va avoir un gamin avec lui pour le former, c'est vraiment incroyablement bien, c'est formidable, l'ambiance c'est génial, les mômes ils s'amusent comme des fous, et puis surtout chaque année ils font un beau spectacle. C'est-à-dire que la récompense du truc, c'est que c'est un vrai spectacle. Il y a des costumes, il y a des éclairages, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer. C'est toujours très intelligent, en plus les sujets eux-mêmes. C'est pas les bisounours, quoi. Ils font des trucs parfois très puissants, quoi. Ils avaient fait les enfants du Levant, par exemple, sur les bagnes d'enfants à Toulon au siècle dernier. Enfin, il y a des trucs, c'est lourd, quoi. Et c'est formidable, quoi. Puis avec moi j'ai eu l'extrême honneur de faire une musique pour eux, une musique pour eux. Mais il y a des super compositeurs qui travaillent avec eux, des gens très sérieux, des vrais compositeurs.
Mais tu es compositeur, enfin vraiment là c'est pas. Il n'y a même pas de sujet. Tu es compositrice au même titre qu'une Isabelle Aboulker ou
d'autres. Oh non, Isabelle Aboulker, je suis fan, moi, d'Isabelle Aboulker.
Je suis fan aussi d'Isabelle Aboulker. C'est la base aussi, évidemment.
Non, il faut rester très, très modeste. On n'est pas. Moi, je reste modeste parce que je n'ai pas une formation. J'ai appris sur le tas, quoi, en fait, en réalité. Donc, j'ai deux, trois notions de solfège, etc. Mais c'est en faisant que j'ai appris.
Tu fais tes orchestrations aussi.
Enfin, oui, mais j'ai appris sur le tas, en fait. Ouais, donc, je fais des bêtises. Je ne sais pas. J'ai pas la formation pour. J'ai pas les trucs et tout, mais bon, après je me débrouille, hein, mais je reste modeste à cause de ça. Beaucoup, je reste modeste parce que je suis modeste, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai une nature comme ça. Mais non, c'est vrai que j'ai tendance à être très humble par rapport à des gens comme Isabelle Aboulker, par exemple. Moi, c'est waouh, j'adore.
Et il y a plein de gens qui disent de Juliette, waouh, j'adore aussi.
Oui, c'est gentil. Mais si vous saviez. Si vous saviez la vérité.
Si vous saviez la vérité, cette femme vous ment.
J'ai la cave remplie d'esclaves qui travaillent à ma place. Alors... Dont Isabelle Aboulker. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire comme bêtise, par contre.
Alors, Juliette, il faut savoir aussi que sur Forum Opéra, il y a aussi des débats. Et je trouve qu'il y a des sujets un petit peu tendus parfois, des sujets de société qui demandent parfois un petit peu plus de recul, de réflexion. Et je me disais que c'était le moment peut-être, puisque tu es là, d'aborder ce sujet qui divise beaucoup les Français.
Oui, je sais ce dont tu as parlé. Je dois dire que, alors avant qu'on commence à l'aborder réellement, je tiens à dire que je ne vais professer que mon opinion, qui est très tranchée. Il faut le dire, mais que donc j'assume mes propos et On se donnera rendez-vous devant les tribunaux.
Mais tu n'as pas peur des représailles, tu...
Si c'est nécessaire. Maintenant, encore une fois, essayons de garder raison, raison gardée, comme on dit. Ça ne mérite pas non plus des menaces de mort et tout ce qui s'ensuit, hein. Bon, normalement.
Et je trouve que la France a peur en ce moment et je trouve que ce sujet ne rassurera pas forcément tout le monde.
Donc non, je sais que chaque fois que je l'aborde, je sais que je risque de perdre des soutiens, des fans, comme on dit, ou des gens qui m'aiment bien. Je le sais, mais je l'assume.
Ouais, je l'assume. Ben écoute, je crois qu'il est temps de...
Oui, de dévoiler le...
Il est temps de parler de la chocolatine, quoi, je
bien
pense.
Sûr, voilà. Bien sûr, voilà. Le mot est lâché.
Ben, en plus, tu es spécialiste du sujet, je crois qu'on peut
le
dire.
Oui, on peut le dire, absolument.
Et
oui.
La France t'écoute,
Philippe. Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que le pain au chocolat, donc, est une appellation erronée, hein, bien entendu, qu'une viennoiserie à base de pâte feuilletée au beurre, d'un feuilletage au beurre, avec un peu de chocolat dedans, ne peut pas être un pain. Un pain, c'est forcément de la pâte à pain.
Mais seuls les amis du bon goût sauront entendre ce que tu dis.
Donc, on parle bien de chocolatine. Il faut parler de chocolatine et de rien d'autre. Le reste est une appellation mensongère. il se trouve que la vérité, encore une fois, comme souvent, la vérité est dans le sud-ouest. Comme un petit peu comme le gras de canard, hein, la vérité dans le sud-ouest. Donc, hein. Toujours est-il donc que la chocolatine est bien entendu du sud-ouest. Alors, je m'inscris en faux, violemment, contre une légende qui voudrait que le mot chocolatine vienne de l'allemand, de l'autrichien très exactement, Schokoladen, sous le nom duquel est arrivée la chocolatine à Paris. Je pense dans le courant du XVIIIe siècle environ.
Mais pardon de te couper, Juliette, peut-on vraiment faire confiance à des gens qui mettent des chaussettes avec leurs claquettes, finalement ?
Oui, alors ça, c'est un autre débat dont on pourra effectivement...
Et c'est pour ça que cette légende, déjà, on peut la mettre un peu en doute, mais déjà pour cette raison-là.
Voilà, ceci dit, mais effectivement, si tel est le cas, et qu'effectivement, la viennoiserie, donc originaire de Vienne, qui est arrivé en France dans le courant du XVIIIe siècle, on le suppose, est arrivé via Paris, via la capitale de la France, sous le nom de Schokoladen Brot, peut-être, ou Schokoladen tout simplement, c'est-à-dire, voilà, ça n'a pas pu donner le nom de chocolatine, sinon les Parisiens emploieraient le mot chocolatine. Pourquoi serait-il arrivé à Paris et ensuite directement descendu dans le sud-ouest ? Or, il est avéré, par exemple, mais ça c'est vrai, hein, pour le coup on dit des bêtises, mais il est avéré que le mot chocolatine existe avant la chocolatine. C'était une friandise à base de chocolat. On connaît par exemple la célèbre chocolatine de Montauban, qui était fabriquée dans une pharmacie, je crois, parce qu'elle devait avoir quelques vertus digestives. Et elle est formée évidemment sous le mot chocolat et sous le suffixe in, qui, comme en occitan, mais aussi comme dans beaucoup de langues latines, est un suffixe, comment dirais-je, pour évoquer quelque chose de doux, de gentil, d'un peu doudou comme ça. Voilà,
hein, aspirine, comme on... clémentine.
Voilà, aspirine, clémentine. Etc, etc. Bon, bref, très bien. Non, mais ça, c'est avéré. Et donc, ce petit mot de chocolatine aurait donc désigné ensuite la pâtisserie dans la région du sud-ouest où gît la vérité. Comme vous le savez, ça ne peut pas être ailleurs. La vérité,
par ailleurs, non.
La vérité n'est pas ailleurs, la vérité est dans le sud-ouest.
Absolument.
Voilà. Comme on peut s'en douter. Voilà. Et bien, une fois qu'on a dit ça, on est content.
Alors, non, mais j'espère surtout que cela ne va pas déclencher comme ça des tempêtes de protestations.
Si, malheureusement, vous le savez très bien, c'est un sujet délicat. Les gens n'aiment pas être bousculés dans leur certitude. Et malheureusement, voilà, le pain au chocolat, ça ne veut rien dire. Et c'est donc bien la chocolatine pour désigner cette délicieuse, par ailleurs, viennoiserie. Il faut bien le dire, ça peut être très bon. Hein, mais c'est meilleur avec du beurre qu'avec de la graisse de canard.
De la graisse de canard, j'avoue.
Non, mais c'est vrai. Alors, l'histoire d'André Daguin qui a essayé à un moment de faire des pâtisseries. Parce qu'il se trouve que traditionnellement, dans le sud-ouest, dans les familles, on pouvait très bien faire des pâtisseries à la graisse de canard. Il n'y a pas de beurre, forcément. Et il a essayé de remettre ça au goût du jour. C'était une catastrophe. Et effectivement, qu'on soit. Nous, on a un truc dans le sud-ouest, c'est le millas. Le millas, c'est de la farine de maïs.
Ben, nous, c'est millasson, ouais, mais d'accord.
Ben oui, bien
c'est
sûr.
Pareil, bien sûr.
Ben oui, tu connais ça. Donc, c'est de la farine de maïs qu'on mélange avec du lait, c'est une espèce de polenta en fait, hein, italienne, mais après elle est assez épaisse et puis on la fait dorer dans du dans du beurre, un peu comme un pain perdu à la poêle. Et c'est vrai que dans le sud-ouest, il y a des gens qui la font à la graisse de canard. Et c'est, il faut bien le dire, là, c'est là où on peut parler de gerbatine. C'est pas bon du tout. C'est un peu spécial. Faut être habitué tout petit.
Oui, c'est... Et encore, hein, j'ai envie de dire que beaucoup de gens ont déserté la région, peut-être. De quoi tu auras envie de parler alors maintenant ?
Je sais pas. Alors maintenant, on a quand même évoqué maintenant un certain nombre de sujets très importants. Hein. Là, on a parlé de musique.
Est-ce que tu veux parler de jeux vidéo ?
Est-ce qu'on pourrait parler de jeux vidéo ? Bah oui, on peut parler de jeux vidéo, bien sûr.
Par exemple. Mais parce que sûr. Juliette nous redine quand même. Et à fond dans les jeux vidéo.
Il se trouve, alors oui, c'est assez rigolo parce que bon, déjà c'est maintenant c'est comment dire, le jeu vidéo est entré un petit peu mieux et plus facilement dans les mœurs et surtout dans l'imaginaire collectif, c'est plus forcément réservé à des adolescents boutonneux en mal de catharsis violente. On sait maintenant qu'il y a des gens très bien qui jouent à des jeux vidéo et que le jeu vidéo lui-même est entré dans un commencement d'âge adulte, on va dire, dans sa conception, dans ses propos, etc. C'est un art à part entière. Et ça commence à se savoir. C'est-à-dire qu'en quelques années, on a un petit peu arrêté de dire à chaque fois qu'il y avait un fait divers violent et que l'impétrant était un fan de jeux vidéo, que c'était sûrement à cause de ça qu'il avait assassiné toute sa famille. On a un petit peu arrêté de dire ça. Ça reste encore une caractéristique qui est souvent... à coller à des jeunes délinquants, etc., qui sont par ailleurs fans de jeux vidéo. J'ai commencé, moi, le jeu vidéo, en fait, en même temps que la musique informatisée, parce que je me suis acheté un ordinateur, enfin, au tout début, il y a longtemps, dans les années 80. Et c'est par ce biais-là que j'ai... Parce que j'ai un copain qui faisait de l'informatique musicale, qui m'a montré des trucs, j'avais très envie de m'y mettre. Et puis, il m'a vendu mon premier ordinateur d'occasion, et puis il y avait des disquettes, et puis il y avait des disquettes de jeux. Mais alors, c'était des jeux, c'était assez limité, quoi. C'était des jeux pixels, enfin, c'était pas encore très joli. Et puis, les progrès de l'informatique étant ce qu'ils sont, début des années 90, j'ai commencé à avoir des ordinateurs. Il a commencé à y avoir des ordinateurs un petit peu plus perfectionnés, avec des CD-ROM, donc avec des choses plus réalistes, plus photoréaliste, on va dire, plus travaillé. Donc j'ai continué à m'intéresser à la fois à la musique assistée par ordinateur, mais aussi aux ordinateurs eux-mêmes. Et dans ce domaine-là, il y a eu aussi le jeu vidéo qui a commencé à prendre une place assez importante dans mes loisirs, il faut bien le dire. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis, j'ai continué à pratiquer un peu ça. Puis surtout, je l'ai dit, ce qui était assez surprenant dans un premier temps, parce qu'on ne m'imaginait pas tellement... jouer à des jeux vidéo, de par l'image que j'ai de chanteuse à piano. On m'imaginait plutôt passer mes samedis soirs à jouer du piano avec un bougeoir en buvant du champagne.
Un petit prélude de Chopin.
Il y avait une image un peu plus comme ça, un peu plus compassée. Et en fait, non, voilà. Donc, il se trouve que voilà, j'ai joué à des jeux vidéo, à des tas de jeux vidéo, des tas de sortes de jeux vidéo. J'ai testé un peu pas mal de choses. Et il y a quelques années, puisque ça a duré, j'ai fini mon mandat cette année en début d'année, mais j'ai fait deux sessions, donc ça a dû durer, ouais, je crois, 4-5 ans. J'étais la présidente du Fonds d'aide aux jeux vidéo, qui est une structure au sein du CNC, c'est-à-dire Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, et qui est donc une commission qui donne des subventions. Des subventions donc maintenant à l'écriture de jeux vidéo, à la réalisation des jeux vidéo, mais au premier étage du développement. Et surtout, c'est une aide qui est très importante parce que pour les jeunes créateurs, elle leur permet de garder ce qu'on appelle l'IP, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, de manière à ce qu'eux puissent ensuite négocier avec des éditeurs, le cas échéant, et garder la propriété intellectuelle de leur création sans qu'elle parte chez les éditeurs. Vous pouvez signer avec Sony, l'IP restera française. Ah. Et comme c'est le ministère de l'Industrie qui travaille avec nous, et qui travaille toujours d'ailleurs avec le Fonds d'aide aux jeux vidéo, parce que justement, c'est aussi une histoire d'avoir des propriétés intellectuelles, des brevets, on va dire, français, qui restent en France, qui ne partent pas ici ou là. Et du coup, cette politique a été très intelligente. Elle date d'il y a longtemps, hein. C'est pas, je crois que c'est 2000... ils ont commencé à faire ça en 2000, 2003 ou 2004, enfin, je ne sais plus, début du 21e siècle. Et cette chose a permis que, justement, la France soit particulièrement bien implantée dans le domaine du jeu vidéo.
Implantée et protégée aussi.
Implantée et protégée, bien entendu. Mais surtout bien implantée, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'économiquement, c'est énorme, le jeu vidéo. C'est, je crois, presque plus que le cinéma en termes de manipulation d'argent. Je ne saurais pas dire comment ça s'appelle, mais... voilà, c'est un domaine économique assez énorme. Et la France est très bien placée là-dedans, justement parce que des politiques ont été vite mises en place, intelligemment et très rapidement mises en place. Voilà.
Mais il y a aussi des chercheurs en neurosciences qui, justement, utilisent le jeu vidéo pour toutes les connexions cognitives, des émotions, etc. Et il paraît que vraiment, les jeux vidéo sont des supports extrêmement intéressants pour eux.
Bah, c'est assez logique parce qu'il y a une intervention de celui qui le regarde. C'est pas comme regarder un film où finalement vous êtes assez passif. Les images sont montées, la musique est décidée, etc. Alors évidemment, dans le jeu vidéo, il y a aussi des choses qui sont décidées, mais il y a quand même une action de votre part. Et de plus en plus, les jeux proposent ça, c'est-à-dire que ce que vous allez vivre en jouant tel ou tel jeu, bah, c'est pas ce que le voisin va vivre parce qu'il va pas faire les mêmes choix. Et ça, c'est, moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que les premiers jeux vidéo, fallait aller tout droit, quoi. Puis c'est tout. Bon, il fallait passer des épreuves plus ou moins compliquées, mais il fallait aller tout droit. Or, maintenant, de plus en plus, il y a des jeux où vos choix, votre façon de jouer, votre façon de concevoir le monde ne va pas vous apporter la même expérience, voire même vous allez pouvoir refaire le jeu en jouant un autre rôle. Ce qui n'est pas toujours très simple, mais qui est très amusant. On a tout un club comme ça de gens qui sont incapables de jouer des méchants. Moi, je suis incapable d'être méchante dans un jeu vidéo. Je suis capable de tuer des gens comme ça, juste pour le fun, même si on peut le faire. Voilà, et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont incapables de prendre le rôle du méchant quand il faut... Quand il faut refaire une partie, on refait finalement toujours un peu la même. Et voilà, donc ça, c'est un domaine qui me fascine énormément, comme la réalité virtuelle me fascine aussi énormément, même si je trouve que les applications ne sont pas forcément fondamentalement les mêmes. Le jeu virtuel, je pense que c'est un jeu qui doit se faire, pour l'instant en tout cas, c'est super intéressant s'il est collectif, donc dans les salles de jeu, je trouve ça assez excitant. Et en même temps, la réalité virtuelle, je pense qu'elle aurait une merveilleuse fonction de moyen d'évasion et notamment pour une forme de tourisme non invasif pour aller visiter des monuments. Moi, j'imagine aller me taper le temple d'Angkor toute seule dans mon salon, mais comme si j'y étais et en pouvant emprunter les chemins qu'on n'a pas le droit d'emprunter en vrai, enfin, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça sur l'exploration d'un patrimoine quelconque d'une manière très libre et surtout non invasive, c'est-à-dire une forme de tourisme non invasif. Voilà. Ça me plairait beaucoup, ça. Je trouve que ça serait une belle solution. Après, le jeu, voilà, il y a des jeux qui sont passionnants, il y a des jeux qui sont formidables, des jeux qui racontent des histoires merveilleuses. Il y a des jeux qui sont hyper jouissifs, juste parce que de temps en temps, dégommer ses voisins, c'est super sympa, quoi. Surtout quand on est un peu énervé, c'est parfait. Il vaut mieux le faire dans un jeu vidéo. Comme disait un ami à moi, il vaut mieux buter des pixels que ses voisins, justement. Autre chose par rapport à ça, il y a quelque chose de très intéressant, justement parce qu'on parlait justement de cette connexion, de ces connexions neuro, machin, etc. Il y a forcément, parce qu'on est actif, je pense par exemple sur le simple fait d'avoir le sens de l'orientation. T'es obligé d'avoir le sens de l'orientation dans un jeu vidéo, sinon tu tournes en rond très vite, quoi.
C'est mort pour moi, parce que moi, si je vois pas les Pyrénées, je ne sais pas où est le sud. Donc déjà, c'est mort, c'est du tout net.
Ah, c'est bien. Mais oui, mais on les voit au loin.
Oui.
Il suffit de bien regarder. Mais des fois, il y a des aides, hein, quand même. Il y a des boussoles. Ah, sur l'écran, il y a une boussole.
Regarde avec ton cœur. Oui, enfin bon, quand même, flemme.
Mais voilà, non, je trouve que c'est un... Moi, je pense que c'est un excellent moyen. C'est, alors, c'est comme tout. Bah, évidemment, arrive donc le débat sur oui, mais les enfants, machin, etc. Mais je pense que c'est comme tout. Vous n'allez pas montrer des films ultra-violents à des gamins de 3 ans et demi. Non, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement.
Par Après, exemple. Si on veut qu'ils aient une vraie raison pour pleurer, on peut.
Voilà, mais aussi, c'est encore autre chose. Je veux dire, il y a un accompagnement des parents. Or, cet accompagnement des parents n'était pas possible tant que les parents n'avaient pas eux-mêmes aux jeux vidéo. Or, il se trouve maintenant qu'on a une génération de gens quadragénaires qui ont des enfants assez grands et, ou trentenaires et qui ont grandi avec les jeux vidéo, donc ils savent très bien ce que c'est. Et donc, effectivement, ils pourront et ils peuvent accompagner la découverte de ces jeux vidéo par leurs enfants. Et ça change tout, en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait cette incompréhension était générationnelle, à mon avis. Elle t'aura disparaître, il suffit de 10 ans et on n'en parle plus.
Oui, oui, c'est ça. Ça vient aussi vite que ça. Ça part aussi vite que ça vient. Cette phrase étant totalement inutile dans cet échange.
Mais oui, mais on peut la placer partout. C'est ça l'intérêt. C'est vrai. J'ai failli dire comme disait la jeune mariée, mais je ne l'ai, fait.
Tu sais que je suis la spécialiste, théoriquement.
Oui, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup ce petit jeu.
Oui, oui, absolument.
Dans moi, les quelques dernières questions bateau que je voulais te poser.
C'est bien les questions bateau.
Ouais, mais j'aime bien aussi. Parce que je ne sais pas si nous avons perdu des auditeurs ou pas.
Je pense que entre ceux qui détestent les chocolatines et les gens qui sont allergiques.
Et ceux qui se disent, tiens, Tillac, vraiment, c'est de la...
Bon, bref. C'est n'importe quoi.
Il y a un disque que j'aime pas mal, qui était sorti chez Warner. C'était surtout Alexandre Tarot qui avait fait un disque hommage à Barbara et tu avais participé à ce disque. C'était quoi cette expérience pour toi ?
Alors, d'abord, Alexandre Tarot. Commençons par lui. Alexandre Tarot est un garçon que je connais depuis très longtemps. Je suis super fière d'être de ses amis, en réalité. Je trouve que c'est un artiste merveilleux, c'est un pianiste remarquable et surtout un musicien sans frontières.
Et tu sais que parfois, il vient répéter son piano dans mon petit studio du Chœur de l'Armée française.
Très bien, chaton, bien sûr, même. Puisqu'il n'a pas de piano
chez lui.
Enfin, maintenant, il en a un, parce qu'avec le confinement...
Il a bien été obligé. En tout cas, il venait nous voir régulièrement, on était vachement contents. Voilà, petite parenthèse.
Donc, c'est un garçon que j'apprécie, que j'aime beaucoup depuis très longtemps, je connais depuis très longtemps. Et alors, donc voilà, c'est un garçon qui fait des expériences musicales, il est sans frontières, sous les sens du terme, sans frontières géographiques et sans frontières... musical. Donc, à chaque fois qu'il m'appelle pour faire quelque chose, je suis toujours présente. Je ne peux pas dire autre chose parce que j'aime trop faire des trucs avec lui. Là, je vais enregistrer un 4 mains dans 3 jours avec lui. Je vends l'affaire, mais le temps que l'émission passe, ce sera sûrement déjà sorti. Mais il enregistre un disque de 4 mains. Et il m'a demandé de venir faire un petit Jean Français avec lui en 4 mains. Donc, je suis super flattée parce qu'il n'y aura pas que des pianistes. Dans la même journée, il enregistre avec Bertrand Chamaillou quand même. Tout va bien, quoi.
Et Juliette.
Ah ouais, je suis super contente.
Eh ben ma Juju, elle y est, compositrice, pianiste et tout.
Du pagnon avec Alexandre, c'est un truc, c'est super touché à chaque fois. Et puis Alexandre, il a un truc, c'est qu'il adore la chanson. Et notamment Barbara, c'est ça. C'est vraiment son idole depuis toujours. Il l'a vu en concert. Enfin, vraiment, il connaît son répertoire absolument par cœur. Et une des premières fois, d'ailleurs, où je l'avais rencontré, je pense qu'il avait chanté Les Amis de Monsieur, il me semble bien. Qui est une chanson donc, qui n'est pas de Barbara, qui est d'Henri Fraxon, je crois. Et qu'il avait chanté. Donc ça, c'était parfait. Et voilà, il a eu envie de faire un disque d'Alexandre Tarot autour de son idole absolue, c'est-à-dire Barbara, qu'il a enregistré avec évidemment beaucoup d'invités, et puisqu'il connaît le monde entier, c'est parfait. Et en même temps qu'il a enregistré avec Romanelli à l'accordéon, etc. Donc il y avait une équipe de proches de Barbara. Et puis voilà, de proches de Barbara. Et donc, mais c'est lui qui a choisi les chansons, c'est ça qui est chouette. Il a été au bout du truc. C'est-à-dire que souvent, quand on fait des disques hommages comme ça, où on invite des gens, qu'est-ce que t'aimerais chanter ? Ah ben moi j'aimerais bien celle-là, etc. Là, il a été directeur artistique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il m'a demandé de chanter Mes Hommes, qui n'est pas la chanson que je préfère de Barbara, a priori. Mais il m'a dit, je suis sûre que ça t'ira très bien, je voudrais bien que tu la chantes. Donc me voilà à apprendre cette chanson pour la chanter pour lui. Et j'ai trouvé la démarche vraiment super intéressante. Ça montre bien l'artiste qu'il est, c'est-à-dire qu'il laisse pas au hasard, il est vraiment directeur artistique pour le coup. Mmh. C'est son projet, donc il veut que Juliette chante Mes Hommes. Ok, d'accord, bien chef, oui chef, avec plaisir. Et c'est donc c'est, voilà l'expérience que j'ai avec lui. Si il m'avait demandé, j'aurais peut-être voulu chanter, je sais pas moi, Joyeux Noël ou un truc plus finalement plus bateau. J'aurais jamais pensé à Mes Hommes. Mais je crois qu'il a eu raison parce que la version est sympa. Et puis du coup, on est obligé de se, je sais pas comment dire, on est obligé de se creuser quelque chose dans la tête pour interpréter quelque chose auquel on n'aurait pas pensé forcément, voire même une chanson qu'on n'aime pas particulièrement, en se disant il la veut, je vais la faire, donc mais je vais la faire bien tant qu'à faire, je vais pas la faire avec une moue de dégoût, donc il y a un moment où c'est artistiquement super intéressant de travailler quelque chose qu'on n'est pas forcément très convaincu de devoir faire.
Et tu as collaboré avec d'autres artistes quand même remarquables aussi. Moi, je garde toujours, mais on en avait déjà parlé, pas du tout au micro, mais vraiment La Lettre Oubliée, vraiment avec Guillaume Depardieu. Ah oui. Oh là, mon Dieu, mais on peut en reparler deux secondes de ça parce que c'est quand même exceptionnel.
Oui.
Cette collaboration magique, complètement. Bah
oui. Ça, c'était un autre contexte, c'est-à-dire que j'avais écrit cette. En fait, c'était la maison de disques qui m'a dit. Au moment d'un petit peu avant l'enregistrement, etc., quand je commençais à écrire les chansons pour cet album, qui me disait oui, ça serait bien qu'il y ait un duo ou deux, c'était quasiment le passage obligé, c'est d'avoir un duo. Moi, j'ai dit oui, mais je veux pas de chanteur avec moi. D'abord, parce que ça. À l'époque, je trouvais ça. Comment dire, je trouvais ça plus intéressant d'aller chercher des gens un peu ailleurs qui font autre chose. Donc. J'avais cette chanson que j'avais écrite que j'étais censée chanter seule au départ, La Lettre Oubliée. Et quand on m'a parlé de ça, de faire un duo, j'ai dit ben, peut-être que cette chanson, elle pourrait marcher en duo, en fait, en réalité. Et effectivement, elle était faite pour. Donc j'ai changé deux, trois trucs pour que ça soit plus un duo. Et je me suis dit, bon, voyons, de quoi ça parle ? Ça parle d'une femme qui retrouve une lettre des années plus tard et elle ne se rappelle plus du tout qui est-ce qui la lui a écrite. Et cette lettre est une lettre d'amour toute bête, dans laquelle il y a juste des échanges de tendresse.
Ben, un amoureux transi, surtout, en plus.
Oui, transi, pas forcément. Transi, il s'est passé quelque chose entre eux, à mon avis, là, son portrait. Il y a un moment dans la chanson où on apprend qu'effectivement, ce garçon, il n'est pas n'importe où, il est au front. Et qu'on l'appelle, parce que c'est l'heure d'y aller, de monter à la bataille. Et lui signifie-t-il, je ne sais pas si je pourrais te revoir, enfin, c'est peut-être cette fois-ci la dernière. Ça, c'est la fin de sa lettre à lui, plus ou moins. Et elle termine le truc en disant « je ne sais vraiment pas qui c'est ». Ah oui, non, mais c'est horrible.
Oui, c'est horrible.
C'est une cruauté effrayante. Elle ne sait vraiment pas qui c'est. Et la chose qu'elle dit à la fin, c'est que c'est quand même bien dommage qu'il n'ait pas signé, quoi, parce qu'au moins, elle saurait qui c'est. Et il y a une espèce de post-scriptum en fait à la lettre où il lui dit que effectivement s'il devait mourir ce soir, eh bien il lui demande juste de ne pas l'oublier. C'est évidemment, elle s'est empressée de faire, donc c'est horrible. C'est juste horrible. Et alors moi, quand je me dis je vais faire un duo, je me dis je voudrais un comédien pour ça. Je voudrais un comédien d'abord parce que les comédiens chantent, ils adorent ça. Là, je connais. Et je me suis dit il faut un type qui a pas de chance quoi, un mec qui a pas de bol, un mec qui va effectivement c'est sa dernière lettre, il y a pas de doute, il est mort. Et c'est pour ça que je pense à Guillaume, parce que je me suis dit Guillaume c'est pas un héros, c'est une victime, c'est un garçon qui est blessé, c'est un garçon qui meurt à la fin quoi. J'avais pas vu le film Mathilde à l'époque, puisque Mathilde c'est un film qui a été d'ailleurs on pourrait se servir des images, enfin le clip, parce qu'il y a même des images où il est au front et il est en train d'écrire une lettre.
Ah ouais.
Et je sais pas si le film était sorti peut-être, mais je l'avais pas vu en tout cas. Et je me suis dit je crois que c'est lui quoi. Je le connaissais pas, mais je l'ai contacté par le biais de son agent. Et j'ai envoyé la chanson. Je savais que je ne m'adressais pas à des gens qui étaient loin de la musique. Puis j'ai attendu sa réponse un petit moment, en réalité. Il n'a pas répondu tout de suite, à tel point que j'ai commencé à chercher un plan B. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Morel, François, puisqu'on se connaissait un peu mieux. Et on a même commencé à répéter un petit peu avec François. Et puis, c'est quand on a répété, d'ailleurs, je crois bien que c'est le jour où on a répété avec François Morel que Guillaume m'a envoyé sa réponse en disant que c'était oui. Alors, c'est pour ça qu'après, j'ai écrit une chanson pour que Morel ne soit pas déçu de ne pas faire partie. Donc, j'ai écrit Mes Mères dans les orties, mais.
Qui est sous des mains aussi.
Genre, en deux jours, quoi, vite vite fait en me disant il faut vraiment qu'on fasse
et
un truc.
Et sa petite intervention dans Jean-Marie de Kervadec, quand même, qui est vraiment.
Oui,
alors ça, c'est très joli comme prénom, complètement bourré. Vraiment,
mais ça, c'est parce qu'il a écrit la chanson. Kervadec, ouais, c'est de lui. Donc je me suis dit, il faudrait qu'il soit dedans. Et j'ai dit, mais par contre, ça serait bien, mais juste à peine, quoi.
Non, mais l'évolution, même la petite orchestration sur Kervadec, je n'en peux plus de rire, quoi, vraiment.
J'adore. Ah ben là, c'est en hommage au trampoline et au saumon. Ah ben voilà, c'est breton.
On est parfaitement d'accord avec cela. Oui. Comme quoi, la boucle est bouclée. Mais juste pour Guillaume Depardieu, quand même, ce que tu as dit, surtout, qui était assez fascinant, c'est qu'il n'y a eu qu'une... Enfin, il y a eu plusieurs prises, mais c'était la première prise.
C'est la deuxième qu'on a gardée. Ouais. La première était une lecture... Et il savait pas. Il m'avait demandé d'ailleurs parce que il chantait en plus. Il savait exactement placer sa voix. Enfin, il savait chanter quoi. Il y a pas de doute. Et je me souviens qu'il m'a demandé si je préférais qu'il le fasse en voix de tête ou en voix de poitrine. Et donc la première prise c'était un essai entre les deux. Et puis je lui dis écoute, la voix de poitrine me semble mieux, mais on n'avait pas fait la prise complète. En fait, la première prise complète c'est celle qu'on a gardée. Parce qu'on était dans le studio, je me souviens, hein, ça c'est un souvenir qui restera gravé. Moi j'avais déjà enregistré ma voix, pour qu'il ait ma réponse, même si je ne sais pas si c'était la définitive, mais enfin il y avait ma réponse. Mais je sais que les bombes ont commencé à tomber, et la mitraille et tout ce qui s'ensuit. Quand il a commencé à chanter, on était scotchés au fond du fauteuil, on a fait « oh putain ». Il s'est mis à pleuvoir dans le studio, on était à Verdun, dans la boue, enfin, c'était l'horreur totale. Ce type avait une charge émotionnelle incroyable, incroyable.
Non mais on l'entend. Et puis, on avait,
je le connaissais pas. Hein, c'est la première fois que je le voyais. Ça a été en studio en fait. Hein, quand il est arrivé le matin, on savait pas à qui on avait affaire. On avait une image de lui un peu par les médias, de type un peu difficile à gérer, de gars qui pouvait être un peu ingérable, ça s'appelle. Hein. On savait pas trop. Et puis en fait, on a vu un garçon absolument délicieux, super timide en fait, ce qui m'étonnait qu'à moitié, qui a dû fumer absolument 92 gauloises sans filtre avant de la prise tellement il avait le trac, qui était super pro. C'est-à-dire qu'il m'a demandé plein de choses, vraiment, à plein d'endroits. Il m'a dit, c'est pour ça qu'on avait fait des prises après, parce qu'il a dit, je voudrais essayer quelque chose et tout. Puis lui-même a convenu que la première était la meilleure. Mais vraiment, c'était super pro, quoi. Vraiment, le mec, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est là, c'est son métier, c'est un comédien, c'est la musique n'a pas de secret pour lui. Enfin, voilà, il est assez musicien pour savoir s'il est à côté, si rythmiquement, c'est pas bon, ou si il a chanté faux, etc. Pas du tout, quoi. Là, c'était tout droit. Et voilà, c'était une expérience assez remarquable aussi pour ça, c'est-à-dire ce côté du mec qui arrive et puis qui sait ce qu'il veut, quoi, qui sait ce qu'il fait. Enfin, c'était...
Non, puis le mélange de vos deux voix, puis il y a une chaleur fébrile dans sa voix, quasi par les chanter.
Ouais.
Et la tienne qui à ce moment-là se modifie, elle est, parce qu'elle est beaucoup plus cynique finalement là.
Ah bah oui.
Et face au mariage.
Et alors je la fais en. C'est marrant parce que dans le spectacle de tango, nous la faisons en franco-espagnol.
Oh là là.
Mais là, j'ai encore moins de raisons de savoir qui c'est qui m'a écrit parce qu'il parle en espagnol. Donc,
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Estás de quiero mucho?
C'est très, très beau. Et la traduction est très belle, très, très fidèle. Cette chanson, elle est assez. Ah ben... Elle est assez réussie. Voilà, on va dire. Je vais aller m'envoyer des fleurs. Elle est pas mal.
J'avoue, Juliette, on peut quand même dire que toutes tes chansons sont réussies. Toi, tu dis. Ah si.
Pas toutes, non. Oh. Non, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Pas être à 100% tout le temps.
Bah, tout est bon dans le cochon, du gras jusqu'au jambon. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une chanson engagée? Au même titre que, par exemple, celle de Patrick Sébastien qui disait « Lâchez-nous les tongs », par exemple. Est-ce que vraiment, on peut...
Oui, on peut, si on veut. Mais elle n'a pas été écrite pour ça, en fait, cette chanson. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement, les époques, au tempora, au mores, les époques changent et font changer le sens des choses. En fait, c'est une chanson qui est une pochade au départ. Tout est bon dans le cochon. Hein. Parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour un copain qui avait un resto à Toulouse et qui faisait collection de cochons.
Bah déjà, on l'adore. Il s'appelle comment, ce monsieur ?
François Dourse.
Ben, on adore François Dourse, déjà.
Voilà, Fanfan, alias Fanfan, qui a donc collectionné les cochons et qui a demandé à tous ses amis. Il avait un café-théâtre dans lequel j'ai fait mes débuts, à Toulouse, qui s'appelait L'Éclusane. Et il a demandé à tous ses potes, il connaissait beaucoup de monde, de lui faire une chanson sur le cochon. Et donc, nous avons répondu présent. Il a fait un album qui s'appelle Import-Export. Voilà. Ouais, Absolument.
Mais on adore François d'Ours, vraiment.
Mais bien sûr, mais il y a de quoi adorer François d'Ours. C'est un type super drôle. Donc voilà, François avait fait, Fanfan, hein, avait fait cet album dans lequel il y avait Bernard Joyet, il y avait Bruno Ruiz, enfin des gens un peu de Toulouse, quoi, quand même, évidemment. Et donc, pour lequel j'avais écrit Tout est bon dans le cochon. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Il y avait même un sticker dessus. Il y avait un sticker avec marqué Vue à la mêlée.
Allez, une dernière question, bah toi, on peut conclure.
Oui, mais vas-y, t'as des questions, toi, au moins.
Ouais, bah enfin, bon, après, c'est pas... mais vraiment une question, tu sais, en mode Laurent Boyer, fréquente star, une phrase...
Mais des fois, c'est
et
bien.
Pas de verbe.
Ah, très bien. Non, une phrase sans verbe, et c'est et même pas de point d'interrogation, donc.
Juliette.
Oui.
Une carrière, des chansons, d'autres projets. Flamme, tu vois. Non.
C'était pas ça. Question,
non, pas du tout. Non.
Ça, c'était l'exemple. Ça.
C'était ça. Non, j'ai pas de faire en mode Laurent Boyer. Non, par contre, ça, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu... Enfin, le plus légèrement possible, d'ailleurs, mais ce que tu penses de la chanson française un peu aujourd'hui. Et perso, j'adore m'ambiancer sur La Rousseau, Tu m'oublieras, évidemment, c'est la base. Hein, le...
Ah oui, alors après, non, c'est l'utilisation qu'on peut faire de la musique. En fait, en réalité,
mais
voilà.
Après, c'est plutôt sur cette diffusion-là et tout ça.
Mais sur la chanson en général et sur la musique en particulier, notamment sur la musique de variété, on va dire.
C'est beaucoup mieux. Oui.
Pour donner un nom générique à tout ça, puisque la chanson peut être française, mais elle peut être aussi anglophone, hispanophone... etc. Je pense qu'il y a des chansons pour toutes les heures de la journée. En fait, il y a des musiques pour toutes les heures de la journée. C'était un point de vue que défendait Jean-Louis Foulquier et que je trouvais très sain. À savoir, on ne peut pas mettre en parallèle Léo Ferré et Vanessa Paradis. C'est impossible. Pourtant, c'est de la chanson française. C'est bien de la chanson en français. Et est-ce qu'on peut dire que Léo Ferré, c'est vachement bien et Vanessa Paradis, non. On ne peut pas, parce que on en a parlé tout à l'heure, mais il y a du travail derrière, pas forcément le même, pas forcément fait de la même manière, mais il y a du travail. Et il y a du talent, même si ce n'est pas forcément le même, placé au même endroit. Ça, entre Léo Ferré et Vanessa Paradis, il n'est pas placé au même endroit.
Capillairement parlant, déjà, il y a vraiment un parti pris.
Oui, voilà, absolument. Donc, il faudrait comparer que ce qui est comparable, et c'est là où c'est compliqué. Et en même temps, il est tout à fait sain et tout à fait dans la vie de tout le monde, en réalité, d'avoir des chansons pour toutes les heures de la journée, pour tous les événements de la vie, et qu'on peut tout à fait adorer des chansons stupides, entre guillemets, en tout cas des chansonnettes, on va dire, allez, des petites musiquettes comme ça, parce qu'elles sont la bande-son d'un événement qui nous est arrivé ou d'une époque à laquelle on a vécu des choses délicieuses. À l'inverse aussi, on peut détester des musiques parce qu'elles nous rappellent des mauvais souvenirs. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Parce que chacun, d'abord, va avoir sa propre bande-son. Parce que les musiques sont, comment dirais-je, oui, un support à c'est très amusant, parce que ce sont des madeleines alors à l'infini, les musiques. On entend des choses et on dit, ouais, voilà, ça rappelle des choses, même presque indicibles parfois. C'est rigolo parce que pour moi, par exemple, dès que j'écoute quelque chose de Jean-Sébastien Bach, ça peut être strictement n'importe quoi, aussi bien un prélude que le début de la
messe en si,
voilà. C'est pour moi, c'est le premier air de printemps. C'est quand on ouvre la fenêtre au printemps et qu'on a le premier air de printemps, cette espèce de façon de respirer qui d'un seul coup remplit les poumons. Ben voilà, Jean-Sébastien Bach, pour moi, c'est ça. Donc c'est très particulier comme chose. Ouais. Et cette sensation d'avoir les poumons plus grands que la veille. Et chaque musique va porter quelque chose, chaque musique va nous être une madeleine personnelle en plus, parce que ce sera pas la même que pour le voisin, et elle sera sans hiérarchie, sans esthétique, sans règles, sans, je sais pas comment dire ça, quoi. Oui, une chanson de La Rousseau peut être tout aussi porteuse et tout aussi importante qu'une chanson de
Non, mais on y met évidemment des choses différentes, parce qu'effectivement, c'est surtout ce début de « Tu vas partir, je sais », bon, qui ne veut rien dire, évidemment, mais qui est quand même incroyablement drôle. Mais ça,
moi, c'est « Je descends d'hélicoptère ». C'était un réel plaisir.
C'était un grand plaisir partagé, chère Juliette. Nous espérons aussi que chez vous, chers auditeurs de Forum Opéra, vous avez ressenti le même plaisir et que nous nous retrouverons bientôt. Merci, Juliette.
Merci, Aurore.